Bien, bonjour. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci à Benoît Mouchard pour son invitation et merci à Florence du BPI de nous avoir invités. On va faire ce soir une rencontre dessinée en deux temps. La première demi-heure, on va faire une présentation de notre travail. C'est-à-dire que moi, je vais donc parler de certaines choses et Jérôme Mulot va dessiner. En fait, il va vous dessiner. On va faire un portrait de vous. Et pendant la deuxième partie, on va faire. On va vous demander de poser des questions sur les choses qui vous intéressent. Donc on fait ça parce qu'on ne savait pas trop si vous étiez des gens qui avaient lu notre livre et qui connaissaient bien notre travail ou si vous êtes venus là juste par curiosité. Donc pendant cette première partie qui va durer à peu près une demi-heure, pensez aux questions que vous allez poser dans la deuxième partie parce que sinon on va se regarder dans le blanc des yeux sans rien dire. Donc dans la première partie, moi ce dont je vais parler, c'est différentes caractéristiques de notre travail, qui sont des choses dans lesquelles en fait on nous pose jamais vraiment la question, et puis des choses qui nous intéressent, c'est des choses dont on parle Jérôme et moi quand on travaille. Et donc même si dans ces choses-là, si je ne m'exprime pas très bien, n'hésitez pas aussi à poser des questions à ce moment-là, vous êtes les bienvenus. Donc la première des caractéristiques de notre travail, c'est qu'on est deux pour faire le travail d'une seule personne. On dessine et on écrit tous les deux, un petit peu comme Dupuis et Berberian, je ne sais pas si vous connaissez. On fait ça... Depuis le début, en fait, le fait d'arriver à dessiner sur la même page, on l'a mis en place dès le début. On a travaillé pour arriver, en fait, à avoir le même trait. On a au début, quand on dessinait chacun de son côté, avec des styles un petit peu différents, qui étaient donc pas très bien. Y a pas très bien au début. On a fait, à côté de ces choses-là, des dessins en commun qui étaient pour nous des sortes de dessins de récréation où on faisait des sortes de blagues en dessin. Et puis, on s'est aperçu que c'est à cet endroit-là qu'en fait notre travail était le plus intéressant. Et on a commencé donc à faire ça de plus en plus. Et on a, pour ça... fait une sorte de partage du style, c'est-à-dire que la façon dont on dessine maintenant, c'est pas la façon dont on aurait dessiné si on s'était pas mis à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, en se recopiant l'un l'autre, c'est-à-dire que dès que, par exemple, moi je faisais, dès qu'on avait une trouvaille graphique, l'autre la recopiait et ça donnait quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre était recopié à son tour par celui qui l'avait fait au début, et en se recopiant en fait l'un l'autre, on comprenait un petit peu mieux notre trait et puis qu'est-ce qu'on était en train de faire, et ça nous a permis de avoir une sorte de panel, une sorte de vocabulaire graphique commun. Et donc dans chacun de nos livres, on dessine tous les deux, mais on le fait pas aussi de la même manière. Il y a par exemple Le Tricheur, notre dernier livre. Ce qu'on a fait pour ce livre-là, c'est qu'on s'est partagé les personnages en deux. C'est-à-dire que dans le livre, il y a dans le livre, c'est plutôt des duos. C'est-à-dire que c'est souvent des moments qui sont par deux personnages à peu près toujours dans la même case. Par exemple, ceux-là, qui sont les personnages principaux. Donc moi j'ai dessiné lui et Jean Mulot il a dessiné lui, et donc par exemple là il y a d'autres personnages, c'est les détectives, moi j'ai dessiné lui et Jean Mulot il a dessiné elle, et par exemple là c'est pareil aussi, c'est les autres, et en faisant ça en fait à chaque fois on s'est dit que eux c'est pareil, c'est encore d'autres personnages qui sont toujours à deux. Donc Jérôme il a fait lui et moi j'ai fait lui. Et en faisant ça, on a fait ça parce que en utilisant le même vocabulaire, on dessine quand même pas de la même manière. Moi, je vais appuyer un petit peu plus, Jérôme, il va avoir un trait un peu plus léger. Et étant donné que les personnalités des personnages sont un petit peu différents, et puis que les rapports que en chaque fois ces couples sont un petit peu les mêmes, on a, voilà, on a dessiné chacun de notre côté. On fait tous ces dessins par calque, c'est-à-dire que quand je dis qu'on dessine sur la même page, en fait, on dessine pas en même temps, mais on pourrait quasiment le faire, c'est-à-dire que on dessine un petit peu comme dans les dessins animés, c'est-à-dire que dans les dessins animés, ils font souvent un dessin pour le décor, un dessin en transparence par-dessus avec uniquement les personnages, et puis ils vont remettre d'autres calques par-dessus pour mettre d'autres personnages. Et nous, on fait un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on travaille à la table lumineuse en faisant le décor, et pour pas, si vous voulez, arriver avec des personnages et les rater et pourrir le décor derrière, on le fait sur une autre page qui permet de... en fait, après, on les scanne, en les superposant, on peut facilement travailler tous les deux en même temps sur la même page, et puis on peut revenir sur les dessins, c'est-à-dire que si il y a un personnage qui a une mauvaise tenue d'épaule ou une mauvaise tenue de visage, ou ça ne coïncide pas avec le texte qu'on met tout à la fin par-dessus, on peut encore changer. Et on peut aussi se recorriger l'un l'autre, en faisant ce système de où par-dessus le dessin on peut revenir sur l'autre. On prend beaucoup de liberté dans le fait d'utiliser les dessins de l'autre, les corriger, parce que en fait on passe beaucoup de choses à l'oral, on discute beaucoup quand on travaille ensemble, et il y a tout un certain nombre de choses qu'on repasse pas à l'oral pour que ça avance, pour qu'on puisse travailler un peu plus vite, quoi. Alors, je voulais vous parler d'un autre truc qu'on fait, qui c'est les V. Ça, c'est une autre caractéristique de notre travail. C'est-à-dire que nos personnages, on dessine pas les visages. On met un V à la place qui coïncide à la forme d'un visage entre l'arcade, le nez et l'autre arcade, qui donne l'expression du visage, mais qui donne pas d'émotion. C'est-à-dire que chaque visage qu'on a, on ne sait pas si le mec il est en colère ou s'il est heureux, alors qu'en bande dessinée, le visage est vraiment l'endroit où on va mettre toutes les émotions et les sentiments. Et en fait, en faisant juste un V symbolique, on s'occupe donc de faire passer l'émotion et les sentiments par le corps. C'est-à-dire que le visage est neutre, mais c'est le visage qu'on lit. C'est-à-dire que quand on lit une bande dessinée, en fait on lit la bulle et on regarde le visage. Je pense que la lecture bande dessinée sait faire, c'est un regard qui voyage entre ces deux choses là et sur ce visage neutre où il n'y a pas écrit d'émotion, on essaye de faire passer l'émotion par le corps et par le jeu d'acteur d'une certaine manière. Ça, on s'en est rendu compte après, mais en fait on l'a pas inventé. Dans le théâtre grec, en fait, ils font ça. Le théâtre grec, c'est des masques avec un visage figé, avec un trou pour la bouche. Il y a 5 masques, donc tous les acteurs sont des hommes, il n'y a pas de femmes. Et sur ce masque, qui reste toujours le même, dans ce théâtre-là, on voit sur ces personnages les émotions, et on lit ce masque différemment dans une situation ou dans une autre. C'est ces masques-là qui ont donné le mot personnage, parce que en grec, sona, le son qui sort de la bouche, parce que c'est le seul trou du masque avec les yeux. Persona, c'est le son qui passe à travers la bouche et qui fait la personnalité et qui a donné donc le mot personnage. Nous, quand on les dessine, ces personnages avec des V, on a, moi en tout cas, j'ai le sentiment que quand je dessine le V, c'est le moment où je mets l'émotion, et c'est je vois bien que quand je le fais, je me dis tiens, lui il a certaines émotions, mais quand je vais en dessiner un autre dans un autre moment, je vais me rendre compte que c'est une autre émotion. C'est-à-dire que aussi quand on dessine, on s'en rend compte nous-mêmes de ça. Alors je vais vous montrer des exemples de ce que je dis. Donc là, il y a des V donc. Et en fait, la position est donc à chaque fois différente. Pas rien du tout en fait. C'était pas une bonne idée de l'enlever. Vous avez des questions ? Non, pas. Tant pis. Ah, je crois qu'il faut que tu parles dans le micro pour la question.
Allô ? Non. Oui, vous parlez de faire passer les émotions. Moi, j'ai pas lu tous vos livres. Juste Panier de singes, et j'en ai feuilleté quelques autres. Que je trouvais très intéressant. J'avais pas l'impression que faire passer l'émotion, c'était une des premières préoccupations de vos histoires, en fait, contrairement à d'autres, enfin, à d'autres préoccupations, genre, je sais pas, les rapports entre les personnages, les images, le rythme, etc., etc. Enfin, et pour vous, ça joue vraiment faire passer les émotions, les sentiments, c'est un truc qui compte quand vous écrivez une histoire.
Oui, c'est effectivement pas quelque chose qui nous importe forcément. C'est pas les choses qu'on va mettre le plus en avant dans nos livres, mais dans la fabrication, on s'y intéresse énormément. Et par exemple, dans Le Tricheur, qui est le livre où on a poussé ce principe à l'extrême, où donc on a retiré le visage et on a mis le V, et on a aussi retiré tous les textes. Dans ce livre, on a fait comme si on regardait des gens de loin et qu'on les observait, et donc on n'entendait pas ce qui se passe. L'idée vient du cinéma muet et de Charlie Chaplin notamment, où là vraiment on a été sous l'influence de ce film-là pour la raison... Enfin, dans les films de Chaplin, on a une grande image, une sorte de caméra fixe où les gens ont toujours la même taille à l'intérieur. Et dans un plan, Charlie Chaplin, les personnages vont bouger à l'intérieur et on ne va pas vraiment voir le visage plus que ça, mais on va surtout avoir une compréhension des sentiments et des positions des gens par rapport aux autres, de domination, etc., par le mouvement, par le corps. Il y a un gros travail de corps. Nous, on reprend cette idée-là dans Le Tricheur, où sans le texte, on va... Par exemple, dans la rue, quand on regarde des gens et qu'on n'entend pas ce qu'ils disent, on peut se poser la question, et je pense que c'est ce qu'on fait, de voir, si on observe ces gens-là, qu'est-ce qui se passe dans ces gens, qu'est-ce qui se passe entre eux, et qu'est-ce qu'on va lire sur ces gens-là, c'est des rapports de domination, est-ce que les personnes sont en colère, est-ce que les corps par rapport aux autres donnent comme information, c'est des choses d'émotion, des choses de sentiments. Nous, on reprend cette idée-là et on a l'impression, au contraire, quand on fait Le Tricheur, que c'est un livre avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de rapports de domination, d'humiliation, de gens qui sont amoureux, des gens qui sont jaloux. Donc, au contraire, je pense que dans Le Tricheur, là, à la différence des autres livres, on a vraiment eu la sensation de le faire. Peut-être plus que, enfin, en tout cas, plus que dans les autres livres. Alors il y a une autre chose qui est une des caractéristiques de notre travail dont nous, on parle entre nous beaucoup avec Jérôme, c'est ce qu'on appelle les arborescences. Alors, arborescence, ça ne veut pas dire ça, mais nous, quand on parle et quand on travaille avec Jérôme, on met des mots sur des choses, des trouvailles graphiques ou pour que, en fait, on puisse manipuler ces idées-là. Donc l'arborescence qui n'est pas du tout... En fait, une arborescence qui est juste une sorte d'escalade de texte. Donc, c'est ça, une arborescence. C'est donc des bulles les unes à la suite des autres, reliées avec des tirets, qui amènent à des personnages. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans nos livres, et c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup dans l'écriture de nos livres. C'est-à-dire que les arborescences, le fait d'écrire les textes les uns à la suite des autres, donne C'est une sorte de grammaire pour nous, où on enlève un petit peu la ponctuation, les points et les virgules, et on va découper les phrases en groupes de mots qui correspondent en fait à... quand on parle à l'oral entre nous, il va y avoir des groupes de mots qui vont faire un son pendant une certaine période, après il y aura un petit silence, et après la phrase va recontinuer. Donc ça c'est la ponctuation, c'est la grammaire. Nous, on met des moments de son à l'intérieur de bulles, et qu'on dispose dans l'espace les uns par rapport aux autres, qui donnent, si vous voulez, juste une traduction de ce que c'est que une discussion orale, plus fidèle. C'est-à-dire que dans les discussions qu'on a tous les jours, il y a beaucoup de pollution dans notre vocabulaire, comme « ba » ou « a » ou « mais », qui n'ont pas vraiment de valeur grammaticale, dont on utilise beaucoup. Donc nous, on utilise ça parce qu'on trouve que dans tous ces mots-là, quand en fait on observe de près une discussion comme on essaie de la retranscrire là, on a accès à comment un cerveau il fonctionne, comment un cerveau il enchaîne les idées dans sa tête, et comment un cerveau c'est bête, et toute la lenteur d'un cerveau est plus facilement flagrante comme ça. Et donc, je vous ai dit qu'on l'utilisait aussi dans l'écriture, c'est-à-dire que quand on écrit un scénario, en fait, on va écrire nos dialogues comme ça, parce que ça devient aussi une façon d'écrire qui est plus simple pour nous et plus spontanée. Et je pense que ça a une influence sur le style qu'on a dans notre façon de d'écrire nos dialogues et les rapports entre les gens. Enfin, ça, on l'a depuis le début, et je pense que c'est vraiment cette petite trouvaille-là a une vraie empreinte, je pense, dans notre façon d'écriture, dans notre façon d'écrire. Et d'où ça vient donc ces arborescences ? Ça vient d'un autre aspect de notre travail qui est la dédicace, c'est-à-dire que dans le métier d'auteur de bande dessinée, il y a un moment où personne, il n'y a aucun auteur qui échappe, c'est on est assis à une table, des gens viennent pour avoir la dédicace, et il y a ce petit moment-là où on dessine et où on est face à son lecteur, ou face à un public directement. Alors tout au début, quand on a commencé de faire la bande dessinée avec Jérôme, on s'est dit, donc ça remonte, c'est quand on était au Beaux-Arts, à cette période-là, on s'est dit que le moment de l'espace de la dédicace, c'est un espace intéressant parce que c'est à peu près le seul moment où on est dans un rapport un peu de performance. C'est-à-dire que c'est le seul endroit du métier d'auteur de bande dessinée qui a les qualités de représentation, de... moi, quand j'étais au Beaux-Arts, à ce moment-là, je faisais de la danse contemporaine. Jérôme Mulot, il faisait des sortes d'émissions de radio où il faisait des sortes de lectures, des sortes de conférences dans son travail. Donc, le moment-là, on trouvait des liens entre ce moment-là et notre travail. Et on a utilisé toutes les qualités de ce moment-là, de rencontre, on rencontre quelqu'un pour la première fois, il y a une sorte d'inconfort, il y a le fait de présenter sa personnalité directement à l'autre, il y a tous des moments un peu de gêne, tout ça. On s'est dit, ça, il y a une vraie matière qui nous intéresse et qu'on peut utiliser en bande dessinée, de faire le lien entre ce truc de réalité qui est un peu pesant ou qui a de la gêne, enfin qui est vraiment humain. On peut utiliser ce moment-là et le traduire directement en bande dessinée. Donc, pour faire ça, on a donc au moment quand on faisait les premiers festivals de bande dessinée, donc là on n'avait personne qui venait en dédicace, donc on était devant la situation où en fait nous on aime bien le moment de dédicace, mais on peut pas dédicacer parce qu'on n'est pas encore auteur. Donc on a fait pour ce truc-là, on a fait ce qu'on appelait des dédicaces de page blanche, c'est-à-dire qu'on avait une page blanche. Alors, je vous ai amené un exemple de ça. Donc on faisait ce truc-là, Bon, attends que je vous le montre comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de dessin dessus. C'est donc une page blanche avec des carrés dessus. Donc nous, quand il y avait les personnes qui passaient, on leur disait, on peut vous faire une dédicace de page blanche. C'est-à-dire que donc, on prenait cette page blanche, on faisait les carrés, on dessinait dans les carrés juste le dessus du crâne, ici et ici. Et là, on marquait les textes, les bulles de ce que tu as dit avec la personne. Donc, quand elle venait, on disait, voilà, on va avoir une discussion, tout ce qu'il y a de plus normal. Il faut juste qu'à des moments, on s'arrête de parler. Parce que nous, quand on parlait avec cette personne, on écrivait tous les textes. Et pour qu'on ait le temps d'écrire tous les textes, il fallait bien qu'à des moments, on ralentisse un peu la discussion. Alors évidemment, le fait d'avoir une discussion normale et en mettant des sortes de blancs, en fait on le faisait sans parler, on mettait le doigt sur la bouche pour dire qu'il fallait qu'on ait le temps d'écrire, ça faisait que la situation était en fait pas vraiment naturelle, et nous ça nous donnait le temps de chercher une sorte de parce qu'en fait ce truc là, une fois qu'on écrit dans tous les carreaux, dans tous les carrés, on le pliait, et en le pliant, on l'agrafait, et après on découpait sur les deux côtés, on faisait un petit dessin pour la couverture, et donc après en fait on pouvait lire la page qui était, en fait on pouvait lire son livre qui en fait était la dédicace et qui était un livre, c'est pour ça qu'en fait ça s'appelait une dédicace de page blanche. Donc en fait d'une page blanche on fait une dédicace qui est le livre, quoi. Mais donc c'est quand même un livre, c'était l'idée de départ. Et donc dans tout ce moment où on a la discussion avec la personne, nous notre préoccupation première c'était de faire un livre intéressant, c'est-à-dire de faire que la discussion plus ou moins bancale qu'on a avec la personne, il faudrait qu'elle ait une sorte de fin, il faut qu'il y ait un déroulement et qu'à la fin du livre on se dise donc on a toujours cherché dans ces moments-là à faire que l'histoire, on puisse trouver quelque chose à la fin qui fasse qu'il y ait une narration, que fasse que ça soit un petit peu quelque chose de se rapprocher de la fiction, de se rapprocher de ce que c'est que de l'écriture, si vous voulez. Alors, après avoir fait ce truc-là, qu'on a fait beaucoup, on a essayé d'autres formes de cette dédicace de page blanche, et donc là, on a utilisé l'arborescence à ce moment-là. Ah oui, attendez, je voulais dire un truc avant. C'est que dans ces carrés, en fait, tout ce qui était dit à l'oral était écrit sur le papier. Et donc, toutes les petites déchets dont je vous parlais tout à l'heure, du vocabulaire, de la façon dont on parle, on l'écrivait toujours à l'intérieur. Et donc, il fallait, donc les A, etc., il fallait leur donner une orthographe, puisqu'en fait, dans le français, par exemple, A, est-ce que je suis d'accord avec toi ? Le A, en français, on l'écrit H-A, et c'est tout. Donc, en fait, nous, on trouvait que le H-A, en fait, colle pas à l'écrit, parce que même si en langue française, c'est comme ça qu'il faut l'écrire, le H-A, quand on lit A, mais qu'est-ce que c'est pas ça que je voulais dire, eh ben, le H-A, il fait A, mais c'est pas ça que je voulais dire. En fait, il sonne pas, si vous voulez, comme le langage oral. Et donc, nous, on a travaillé un peu de notre côté pour réussir à traduire ce que c'est que le langage oral et toutes les imperfections qu'il a. Et on s'est aperçu qu'en fait, quand on passe le langage à l'oral à l'écrit, il y a toutes ces qualités-là dont je parlais tout à l'heure, qui sont l'espèce de bêtise apparente, l'espèce de lenteur d'un cerveau, qu'on a trouvé intéressant de mettre à l'écrit. Donc là, je disais ça parce que je voulais vous parler après des arborescences. Alors, les arborescences se sont nourries de ce style oral qu'on a passé à l'écrit, et après avoir fait cette dédicace de page blanche, dans la recherche d'autres formes de ce principe-là, on avait fait ce truc-là. Donc, ça, c'est Éprouvette, c'est un magazine de l'association, qui était une revue théorique, donc, où on avait fait une interview pour parler de ce truc-là, et on avait fait à une association générale de l'association, donc ce sorte de performance, qui est, le mot est pas très bien, mais enfin, une sorte de dédicace, de page blanche, enfin, on n'a vraiment jamais vraiment réussi à trouver un mot. Et donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait déjà dessiné ces dessins-là au crayon de papier, avec sans les cases, enfin, juste deux dessins au crayon de papier. On lançait la discussion avec la personne en disant la même chose, c'est qu'on va avoir une discussion normale, seulement à des moments, il faudra ralentir. Et on partait de Avec la personne, bah, bonjour, comment ça va et tout ça, pour arriver à ces dessins-là. Quand on a une arborescence, la façon dont on lit une arborescence, c'est qu'on commence de lire, donc on n'a pas encore vraiment vu le dessin. Au bout d'un moment, on se dit, mais d'où ça sort ? Enfin, au bout d'un moment, on va jeter des regards pour voir qui est-ce qui parle. Et puis, en fait, plus on va descendre vers le bas, plus le regard va faire des allers-retours entre la situation qu'on a vraiment, donc comment les gens ont une posture d'épaule ou comment ils sont placés, dans quelle manière ils disent les choses, et le texte. Alors, pour ce truc de performance, quand on commençait la discussion, donc on partait d'une discussion normale en disant bah, bonjour, comment ça va et tout ça. Et puis, on sait que nous, dans notre dessin, à la fin, on a une situation qui n'est pas la situation qu'on a de la personne qui est devant nous à une table et nous qui sommes en train de dessiner. On a une situation en crayon de papier. Nous, on a dessiné dans ces personnes que des situations un peu tendues ou difficiles. Par exemple, là, il y a un mec. Le personnage a une pistolet. Et donc là, on tire au pistolet par terre. Ou là, l'autre, par exemple, vous ne voyez peut-être pas bien, mais lui qui a un chapeau, en fait, le personnage de gauche lui met un coup de genou dans les parties. Ou là, tout simplement, le mec, lui, marche sur le pied. Alors, le but dans toutes ces discussions-là, ça a été de faire que ce que va dire la personne, ça a du sens par rapport à son dessin de lui en train de se faire marcher sur le pied. Donc, on a essayé Donc, des fois, ça ne marche pas, ça marche tout simplement pas. Là, en fait, le personnage, lui, à un moment, il lui dit... Il lui demande s'il se bat des fois ou donc là il lui demande s'il danse. Enfin, donc quand on demande à la personne est-ce qu'il danse et tout ça, en fait la situation elle est pas vraiment dans. Donc en fait ça fait une situation un petit peu bizarre où le mec lui dit bah ouais je danse et alors. Et en fait le but est donc d'arriver avec cette bizarrerie, même si la situation est un peu bancale et puis en fait ça fait bizarre de dire à un mec alors toi t'aimes bien danser et tout ça. Et ben à l'écrit, c'est pas pareil. À l'écrit, la situation, en fait, ça fait juste normal quand quelqu'un dit « Ouais, est-ce que toi, t'aimes bien danser ?» Quand on lit, en fait, ça fait « Ok, le mec, il dit ça, et ça pose pas de problème. » Et donc là, donc le fait que ça soit bizarre, mais qui à l'écrit l'était pas, on devait récupérer ça pour toujours avoir une chute. Et le but du jeu a toujours été d'avoir cette chute-là. On a utilisé ensuite ce principe de cette situation-là, c'est-à-dire en fait d'avoir une sorte de discussion réelle, mais avec un dessin de fiction, en fait de mélanger les deux et de faire qui cohabite. On a fait un livre sur ce fonctionnement-là, où en fait dans le livre il y a deux parties. Il y a les parties avec les noirs là qui est la deuxième partie où là c'est donc une histoire où en fait les gens ils ont des les gens, en fait, ils ont des sortes de masques, des gros masques sur le visage. Et une première partie qui est, en fait, les sortes de mêmes choses que vous avez vues avant, mais avec une situation qui est donc un petit peu différente. Donc là, le mec, il discute. Là, il va pour lui voler un truc dans sa veste. Et donc là, le mec, il lui fait une clé de bras. Et la situation... en fait, la situation, toutes les situations qu'il y a dans cette première partie, qui sont en fait des sortes d'auditions pour la suite du livre, sont en fait des situations qui sont l'essence, si vous voulez, de l'histoire courte qui suit. C'est-à-dire que dans l'histoire courte qu'on a après, les gens, donc c'est une fiction, c'est une histoire d'une danseuse qui travaille dans un club de striptease, mais en fait on comprend que c'est plutôt une prostituée qui a un mari alcoolique, et le mari alcoolique... Donc rentre chez lui et va pour voir sa petite copine et puis il essaye de lui faire l'amour mais en fait il est sous et donc elle se défend puis on comprend que si le mari il est alcoolique c'est aussi peut-être parce qu'en fait ils font pas l'amour parce que elle fait ça toute la journée et, enfin elle fait l'amour toute la journée avec d'autres gens et puis enfin un truc un peu humain un peu glauque comme ça avec des situations bien particulières ou parce qu'en fait il passe devant un clochard, le mec il est alcoolique et en fait il fait des trucs avec le clochard et tout ça. Et donc en fait on a pris des sortes de l'essence de cette histoire, les scènes un petit peu clés et un petit peu humaines de cette histoire-là pour récupérer ces sortes de situations-là pour en faire les arborescences comme je vous ai montré juste avant. Mais ceci dit, en fait, ce livre, il est un peu raté. Enfin, nous, on a deux livres qu'on trouve moins bien que les autres. En fait, celui-là, la deuxième partie, elle n'est pas assez grande. Et l'histoire, elle est... Attends, enfin, bref, je ne vais pas parler ça tout de suite. Il note pas des particularités de notre travail. C'est ce qu'on, notre travail qu'on fait sur Internet. Et en fait, après que je vous ai parlé de ça, ça sera à vous de poser les questions. Donc, je vous dis juste que ce qu'on a essayé de faire avec Internet depuis le début, alors là, il faut que je demande à la régie de mettre Internet sur, sur qu'on mette l'ordinateur. Voilà, ok. C'est pas moi, ça. Ça, c'est pas mon ordinateur. Ah, voilà, parfait. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'à chaque livre... Donc, qui sont les trucs là, quoi. On a fait qu'à chaque livre, on prenne un espace sur Internet pour utiliser le médium Internet et faire une sorte. Le site s'appelle succursale.org, c'est-à-dire que c'est l'idée de la succursale, c'est-à-dire qu'on a un livre et une succursale du livre sera sur ce site. Et ce. Donc par succursale, en fait, on entend plein de choses, notamment il y a des histoires, par exemple, qu'on a fait dans Panier de singes avec des phénéticoscopes, où on lisait une histoire avec des phénéticoscopes. Le phénéticoscope, c'est une vieille invention de avant le cinéma qui c'est en fait des sortes de disques comme ça. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc en fait on lit l'histoire, c'est l'histoire de mecs qui vont dans une fête de mutilés, et c'est un bal masqué pour mutilés, et donc eux sont pas mutilés, et en fait dans les deux personnages, il y en a un qui a un déguisement avec un masque où il est heureux, et l'autre où un masque où il est malheureux, et dans cette fête, il y en a un qui va réussir à avoir un bon rapport avec l'autre, avec les gens de la fête, et un deuxième qui... en fait, va pas du tout réussir à communiquer et en fait va se cogner aux gens plutôt que réussir à s'amuser avec eux. Et donc dans la fête, ils savent que à minuit, il y a une partouze entre gens mutilés. Et donc c'est ça la première raison qu'ils veulent assister à ça. Et donc quand on lit l'histoire, en fait, on voit donc les phénéticoscopes. C'est des choses qu'on peut presque lire, mais pas tellement. En fait, le regard quand il regarde ces choses-là, en fait, c'est pas vraiment la lecture, mais c'est presque la lecture. C'est-à-dire qu'en fait, on lit plutôt la bande là, donc on voit, on a un petit peu les informations de ce truc-là sans vraiment les comprendre parfaitement. Donc on lit tout. Donc là, il y a un mec avec lequel il se dispute, et puis en fait, il lui pisse sur le pantalon et tout ça. Et après, à chaque fois, il y a des phénicoscopes. Donc, comme je vous dis, qu'on ne comprend pas très bien jusqu'à la fin de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, donc, il y a une chute classique en bande dessinée où, en fait, donc là, ils se disputent en fait, les deux entre eux. Et il y a un des personnages qui se prend un cul de bouteille dans le visage et l'autre qui se prend un coup de couteau. Et il y en a un qui, après ce truc-là, en fait, il est sur une chaise roulante parce que le coup de couteau lui a coupé des nerfs. Et donc, il devient donc handicapé à son tour. Donc ça, c'est un petit peu classique en bande dessinée, ce genre de rebondissement. Mais là, le but de l'histoire, c'était d'avoir donc, cette histoire où je vous ai montré où il y a une bande, où on lit. Il y a les phénéticoscopes qu'on comprend pas forcément, mais on les lit quand même un petit peu. Et on peut aller sur le site internet... Donc il y a un petit texte avant qui explique qu'on peut aller sur le site internet. Donc sur le site internet, il y a les mêmes ronds si vous voulez, sauf que sur le site internet, il tourne et donc là, il y a le dessin animé. Et donc quand on lit, quand on regarde les dessins animés les uns après les autres, en fait, il y a une sorte de lumière sur la... sur le sens de l'histoire qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit l'histoire, il y a certains phénéticoscopes qu'on ne comprend pas. Enfin, on voit qu'il y a Et quand on lit l'histoire, il y a un deuxième sens qui se fait sur l'histoire qu'on a lue. C'est-à-dire que sur un truc très esthétique et très joli, en fait, on fait une deuxième couche de sens. Donc l'intérêt d'utiliser Internet, donc dans ce cas-là, c'est pour nous le fait d'avoir une lecture et après une deuxième lecture. Et c'est cette deuxième lecture qui est un autre moment, qui n'est pas une lecture bande dessinée, en fait, va enrichir ce que c'est que la première lecture qui est, elle, une lecture bande dessinée. Alors sur ce site, on fait aussi d'autres choses. Donc voilà, donc à chaque livre, si vous voulez, il y a une sorte de... attends. Par exemple, là, ce truc-là, bon, ça marche pas en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc à chaque livre, on essaye, si vous voulez, de faire un lieu qui a ces qualités-là, quoi, d'aller-retour entre, et puis de réfléchir après un peu sur le livre. Par exemple, le vestiaire dont je vous ai parlé, donc en fait, qui est une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un acteur en bande dessinée, même si c'est une idée qui n'existe pas vraiment. Nous, en faisant des gens dans la réalité qui deviennent des personnages de bande dessinée où ils mettent le masque. Donc en fait, on utilisait vraiment l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un acteur de bande dessinée. Donc pour la succursale, en fait, on fait des gens dans... Donc ça s'appelle le vestiaire. Donc c'est des gens presque avant l'histoire. Et donc c'est... en fait, la scroll bar, elle fait lever le truc, le rideau. Et donc là, vous avez l'intérieur du mec qui est en fait très théâtral, où le personnage en fait se prépare chez lui. Quelle heure il est ? S'il vous plaît. Comment ? 8h moins le quart. Mais c'est qu'une heure la rencontre, on est d'accord ? À 1h30 ? Ah, très bien. Donc, je vais vous montrer un dernier truc sur Internet. Qui est ça plutôt. On utilise aussi une autre qualité d'Internet qui... Attendez, en fait, donc ce que je vous dis par rapport à Internet, c'est grosso modo parce que Internet présente des qualités d'animation qui sont proches de, par exemple, le phonétoscope que vous avez avant. C'est Internet où on peut mettre les doigts. Si vous voulez, il y a un truc un peu actif dans Internet où on peut mettre un peu les doigts dans la machine. Donc tout ce qu'on a fait avant, c'est utiliser ces qualités-là. Là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est utiliser une deuxième qualité d'Internet, c'est la facilité de travailler avec les autres. Et donc on a organisé un championnat de bras de fer qui a été fait uniquement par Internet. C'est-à-dire que on a demandé aux gens de se dessiner dans un décor qui est le nôtre. Nous, on a dessiné le nôtre, on a organisé des règles. Et là, les auteurs, juste en s'envoyant les dessins par Internet, en fait, on fait en fait un championnat de bras de fer. Donc là, c'est Trondheim qui avait gagné. Après, c'est celui-là. Voilà. Alors maintenant, voilà, on va passer aux questions. Alors juste avant de passer aux questions, je vais juste vous donner notre actualité. Là, il y a plein de sujets sur lesquels je suis allé assez vite et pas très en détail. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur ces choses-là qui ont été maltraitées. Et notre actualité, donc, c'est... Là, on a un livre qui sort en novembre, qui s'appelle Sol Carlus, et qui est une histoire de monstre, une sorte de fête d'Halloween, mais avec, qui s'éloigne un petit peu de la tradition de ce que c'est qu'Halloween. On fait une chorégraphie de danse avec Emilio Castello, où nous, on amène ce que c'est que... On amène la bande dessinée avec un chorégraphe qui, lui, amène la danseuse. Et ça, vous pourrez voir ça en janvier, au Louvre. Non ? C'est quand ? Ah bon ? C'est pas... Bon, plus tard. On va participer à la nuit curieuse de la Ferme du Buisson sur... la bande dessinée. En fait, ils organisent une nuit qui a pour thème de la bande dessinée. Donc là, on va faire un truc un peu comme ce travail de performance, mais ça va être encore l'étape d'après, la nouvelle forme. Et puis là, on va faire une maison close pour le Festival d'Angoulême. Et puis, notre prochain livre, et c'est un livre où on va reprendre Cat Size. Et donc ça sortira probablement en septembre l'année prochaine. Et voilà. Donc là, maintenant, c'est à vous de poser toutes les questions.
Bonsoir. J'avais une question pour savoir d'où vient votre fascination pour les armes à feu, les gens qui s'urinent dessus et les combats entre les gens en général, qui sont très présents dans vos ouvrages.
Alors ça, c'est la question la plus difficile, auquel on n'a pas vraiment de réponse. On utilise énormément de violence dans nos bandes dessinées. Nous, on pense que c'est un exutoire pour nous. Ça, on aime vraiment le faire, on s'en rend bien compte. Hein. Mais je ne pourrais pas expliquer la raison vraiment littéraire du truc, je ne sais pas.
Tout à l'heure, il y a un des lecteurs qui soulignait le fait que l'émotion n'était pas forcément ce que vous cherchiez le plus à retranscrire dans vos histoires. Par contre, et c'est un peu lié à cette nouvelle question, ce qui est très régulier dans votre travail, c'est la question du malaise. Et aussi, d'ailleurs, tout ce que tu as décrit de la soirée, y compris par rapport au langage, est lié à ça, le malaise entre les personnes, enfin la difficulté relationnelle, qui d'ailleurs est un thème récurrent dans les bandes dessinées, parce que les auteurs de bandes dessinées ont souvent un problème relationnel. C'est pas votre cas, mais cette question du malaise, qui est une question qui est pas si fréquemment traitée, c'est peut-être plutôt ça votre point d'accroche, non?
Ben, je pense qu'on a effectivement un grand intérêt pour toutes ces situations bancales, déséquilibrées, où les gens ne sont pas dans un rapport sain ou équilibré entre eux. Il y a je pense que, par exemple, on traite beaucoup, on a beaucoup traité, on traite un petit peu moins maintenant, l'homophobie et la prostitution. Ça, c'est par exemple deux thèmes un peu récurrents dans notre travail. Et la raison qu'on a à traiter ces sujets en particulier, je crois que ça tient au langage. Effectivement, c'est un truc de texte où, par exemple, PD et putain, sont des mots qu'on utilise énormément et qui apparaissent dans notre langage à des moments un petit peu particuliers. Et en fin de compte, le sens de PD et de pute, par exemple, sale PD, que tu peux dire à un pote quand tu joues au baby-foot avec lui et qu'il t'a mis un but, qui sont des moments où en fin de compte, on ne veut pas vraiment dire ça, on ne veut pas dire PD. Enfin, moi, je pense que dans le langage, il y a tout un panel, il y a tout un espace qui ne sont pas définis par le langage, c'est-à-dire des mots qu'on a pour certaines choses, et entre ces choses-là, il y a des fois juste pas le mot. On va souvent, je pense, utiliser le mot PD et le mot pute pour ce genre de mots. Et je pense que ce qui est intéressant dans notre travail, je pense qu'il y a une recherche. Enfin, ce qu'on essaye de faire, je pense, c'est essayer d'utiliser ces lieux-là qui nous intéressent, parce que nous, on ne les comprend pas non plus parfaitement, complètement. Et il y a toutes ces zones d'ombre dans la culture et dans le langage qui sont, à mon avis, vraiment créatrices de sens. Et dans toutes ces gênes et tous ces moments difficiles qu'on peut avoir les uns avec les autres, dans tous ces lieux-là, il y a quelque chose d'extrêmement humain et extrêmement artistique, je trouve, dans nos rapports. Je pense que dans tous ces espaces creux du vocabulaire, il y a quelque chose où il se passe d'autres choses, quoi.
Alors, dans cette même idée aussi de discordance, pardon.
Alors, donc là, c'est la personne qui me pose la question, c'est donc Benoît Mouchard, qui est le directeur de
la soirée. Mais, c'est pour ça que je pose des questions, mais si vous en avez d'autres, allez-y. Mais cette question aussi de la discordance, elle me frappe aussi, c'est une question que j'avais envie de vous poser. Elle me frappe aussi par rapport en fait à l'austérité que dégage le style graphique que vous avez développé ensemble, avec effectivement tout ce que tu as exprimé par rapport à la neutralité des expressions du visage, la pantomime aussi qui est assez importante. Et puis, donc il y a une certaine austérité, mais aussi beaucoup d'humour dans les dialogues, dans les situations qui sont burlesques. Tu parlais du film, des films muets tout à l'heure. Il y a beaucoup de situations très très burlesques dans vos histoires. Ça aussi, enfin, je sais pas si c'est pas vraiment une question et ça amène peut-être pas de réponse de ta part, mais il y a aussi une autre question par rapport à la discordance, c'est qu'il y a aussi beaucoup de temps de parole très long avec les arborescences que tu expliquais tout à l'heure, et puis des scènes muettes. Et il y a quelque chose quand on vous connaît un peu, moi je ne vous connais pas tant que ça, mais un petit peu, je vous ai vu quelques fois cette année, surtout pour préparer Angoulême, c'est qu'il y en, et on l'a vu ce soir, d'ailleurs il y en a un qui parle et l'autre non. Alors dans la répartition du travail, comment ça se passe aussi à ce niveau-là?
Alors, bon, il y a plusieurs questions dans.
Oui, plusieurs, pardon.
Pour le style froid, où on cherche effectivement le plus de neutralité possible, et d'un autre côté, où on va mettre des dialogues peut-être un peu durs, où on va peut-être s'intéresser à tout ce qui est un peu violent dans le langage ou dans les situations elles-mêmes, effectivement, c'est fait à la fois consciemment. C'est-à-dire qu'on se dit, effectivement, c'est bien de faire ce décalage-là, parce que ce décalage-là, il est riche de sens. Et en même temps, c'est des choses que je pense qu'on ne comprend pas vraiment. Et le fait qu'on travaille à deux, ou peut-être pas, on suit toujours un peu une route où on se rend bien compte qu'il y a plein d'aspects où on n'a pas vraiment de contrôle dessus. Par exemple, le truc le mec qui ont, il y a toujours des armes, les mecs qui sont toujours en train de se tirer dessus. C'est, on voit bien qu'on suit pour une grande part notre intuition, ou on se laisse guider par le plaisir qu'on a aussi à faire à ces choses-là. La bande dessinée, on le fait pour plusieurs raisons, mais il y a aussi cette raison qui est importante, c'est on doit avoir de l'enthousiasme pour faire la bande dessinée. La bande dessinée, c'est un travail qui est très laborieux, où on travaille beaucoup pendant des heures sur une table à refaire le même dessin encore et encore. Il y a un truc vraiment fatigant et pesant que on peut pas, si vous voulez, faire si on n'est pas passionné par le truc, quoi. Il faut, pour se pousser à faire ce truc-là et puis se dire juste je continue, on doit être accroché à quelque chose. Donc nous, il y a nos envies qui nous guident énormément. La deuxième question... C'est quoi les inquiétudes ? Ah, le fait que Jérôme soit silencieux et que je parle beaucoup.
Ça m'a frappé. Enfin, je vous donnais une anecdote récemment. Tu étais à New York. On avait un rendez-vous à Paris et finalement on a vu Jérôme, mais on s'est vu par webcam et c'est toi qui parlais alors que Jérôme était physiquement dans la salle et c'est toi qui parlais le plus alors que tu étais à New York. C'est une anecdote, mais c'était assez révélateur.
Mais je comprends pas la question. En fait.
Non, mais comment vous travaillez? Parce que du coup, c'est assez mystérieux, tu vois. Moi, je vois toujours Florent en train de parler. Je connais presque pas la voix de Jérôme, en fait.
Justement, sur le mutisme d'un des deux, comment est venue l'idée de faire du langage des signes dans la bande dessinée?
Comment?
Le langage des signes dans la bande dessinée qui a été introduit sur la poule de la place Vendôme. Comment il a apparu? Comment a émergé l'idée? Parce qu'il est muet, justement, ou pas?
Il faut que tu parles un peu, là, Jérôme, à mon avis. Non, le langage...
Il faut qu'il prenne le micro, quand même, maintenant, aussi, un petit peu, justement.
Comment?
C'était pour le pousser à prendre le micro, toutes ces questions, évidemment.
Bon, je vais quand même répondre à la question-là, et puis Jérôme parlera après. Le langage des signes, en fait, c'est tout simplement parce qu'on a été voir des spectacles de langue des signes et qu'on a rencontré Emmanuel Laborie et on a donc parlé un petit peu avec des sourds. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait de calquer un langage des sourds et de traiter le langage des sourds comme on traite le langage oral sur un corps en utilisant nous notre logique de neutralité, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait plein de décalages vachement intéressants à faire avec. En fait, ça vient pas du tout du fait que on est une personnalité de quelqu'un un peu plus silencieux que l'autre. D'ailleurs, je crois que le fait que pour les gens extérieurs comme vous, on soit quelqu'un de silencieux, quelqu'un de bavard, ça n'a pas du tout de rapport avec la façon qu'on a travaillé. Parce que quand on travaille Jérôme et moi, Jérôme est beaucoup plus bavard, par exemple, que moi. Et on parle énormément de notre travail et on passe beaucoup de choses de graphique à l'oral. Et dans nos rapports, je vous assure qu'il n'y a pas du tout de moment où moi je vais parler pendant des heures et Jérôme il va juste dessiner en disant rien, quoi.
Comment est-ce que vous avez décidé de travailler ensemble ? Vous étiez dans la même école des Beaux-Arts, je suppose, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ?
Alors, après que je réponde à la question de Benoît, je voudrais que les autres gens... Parce qu'en fait, Benoît, si vous ne posez pas de questions, il va allonger les questions les unes derrière les autres. Alors, le fait qu'on ait commencé à dessiner ensemble, c'est une idée de Jérôme qui a dit, pendant les vacances scolaires, on était aux Beaux-Arts, je vais faire de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est quelque chose qui doit se faire vite, sans sommeil, sans dormir. Et donc, moi, j'ai dit l'idée est vraiment bien. Et donc, je lui ai demandé de m'inviter chez sa mère pendant les vacances. Et on a... au bout d'un moment, en fait, on s'est aperçu que par rapport à tous les autres médiums qu'on utilisait aux Beaux-Arts, parce que quand on était donc aux Beaux-Arts de Dijon, puis moi je suis là après aux Beaux-Arts d'Amsterdam, on a traité plein, on a utilisé plein de médiums. On a fait, c'est ce qu'on fait quand on est aux Beaux-Arts. Et après, quand on a fait juste à la fin des Beaux-Arts, on a arrêté toutes les autres choses qu'on faisait. Donc moi je faisais beaucoup de danse, je faisais du son, Jérôme faisait tous ces trucs pour faire que la BD, parce qu'on s'est rendu compte que le médium bande dessinée était un médium qui pouvait dans cette petite espace récupérer toutes nos autres envies et toutes nos autres préoccupations artistiques à l'intérieur du médium. En fait, avec ce truc de performance, ce truc de BD, avec toutes les histoires qu'on peut avoir, et puis tout l'aspect graphique et jeu de l'image qui étaient nos préoccupations à l'époque, on s'est aperçu qu'en fait, tout pouvait rentrer dans la bande dessinée. Et donc ça, c'était une des raisons importantes. Et les autres raisons, c'est qu'on s'est aperçu aussi qu'il y a beaucoup de plaisir à dessiner, à le faire évoluer un dessin. Le dessin, c'est quelque chose qui dure vraiment le temps d'une vie, avec tous ces moments, toutes les évolutions, les moments où ça stagne. Et toutes ces choses-là étaient des choses qui pesaient dans la balance de « Ah oui, on peut faire de la bande dessinée toute notre vie, on peut faire ce choix qui est un choix qui est dur, mais où tu fais plus le reste, parce que la bande dessinée prend tellement de temps qu'en fait, on ne peut pas vraiment faire les autres choses à côté, même s'il y en a qui font quand même plein de musique en bande dessinée. Nous, on a l'impression quand même de travailler beaucoup pour pouvoir faire ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors moi, ce qui m'intriguait, c'est que, d'après ce que vous avez raconté, votre démarche a l'air assez structurée et conceptualisée, mais j'imagine que ça s'est fait au fur et à mesure. Donc,
le mélange de dessins ?
Pardon ?
Le mélange des dessins ?
Pas seulement le mélange des dessins, mais toutes les références que vous avez et la manière que vous avez de travailler à deux, donc qui nécessite aussi que vous soyez bien d'accord sur les choses. Je me demandais comment s'était passé votre premier rapport avec les éditeurs, parce que n'ayant lu que Panier de singes, c'est quand même assez choquant à la première lecture. Donc je me demandais comment vous étiez défendu, enfin comment vous étiez présenté d'abord.
Tu veux répondre ? Vas-y.
Bonsoir. Bah, Panier de singes, on n'a rien eu besoin de dire puisque non, en fait, on avait déjà fait des livres avant, et Panier de singes, c'est un livre, c'est bizarre, non ? En fait, c'est un recueil d'histoires courtes, donc il n'y a pas eu vraiment à discuter du livre, je crois.
Je crois qu'on n'avait aucun discussion avec le... On l'avait pris tout comme si c'était, il n'y avait pas eu de changement à faire. En fait, il y avait la discussion de la couverture à faire.
Oui, du lettrage. Mais, enfin, Panier de singe, c'est aussi parce que on a, le livre qu'on a fait avant, il n'a pas été accepté. Donc on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre rapidement? Donc c'était l'occasion de faire... Ça fait comme ça, toi, dans le micro, quand tu parles?
Donc, mais la question que tu, en fait, vous voulez savoir, ce qui s'était passé, comment on arrivait à publier les autres livres d'avant aussi, non?
Bah oui aussi, parce que, enfin, vu que j'ai pas lu vos premiers livres, le fait que vous arriviez à deux comme ça, est-ce que ça vous a, est-ce que ça a été plutôt positif pour vous dans votre première approche aux éditeurs? Est-ce que ça a posé des problèmes? Pourquoi vous avez pas pu éditer celui dont vous parliez avant?
Ah, parce que l'histoire était ratée.
D'accord.
Mais en fait, ça s'est fait naturellement et les gens de l'association, ils ont été, il n'y a pas eu à les convaincre. En fait, on avait publié dans des magazines, on a publié dans des petites revues que les gens de l'association avaient vues. Et donc nous, on avait rencontré Kilofer à une soirée de lancement d'un des magazines dans laquelle on avait fait un dessin. Et on lui a montré le fanzine qu'on faisait. Et il a dit, donc lui, il était intéressé. Et il a dit, ouais, faites la patte de mouche et je serai content de la montrer aux autres éditeurs. Eux, il y a eu aucune discussion où on leur a dit, vous devriez vraiment nous publier, c'est bien. C'est en fait, ça s'est fait naturellement. Ils ont, on leur a dit, bah, on a ça, est-ce que ça vous plaît? Et puis après, ils ont envoyé un mail, ils ont dit, ouais, ça nous plaît, ok.
Mais parce qu'aussi l'association, c'est une association d'auteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un statut d'éditeur avec qui il faut argumenter. On peut directement parler de dessin, d'histoire, de... Enfin, comme c'est eux-mêmes des gens qui font des livres, ils peuvent...
Eux, ils s'intéressent à la politique d'auteur. C'est-à-dire qu'ils ont vu que nous, on avait une politique, une démarche d'auteur, et c'est ça qui les a intéressés.
D'accord, c'est ça que je voulais savoir, merci.
Question suivante.
Je voulais savoir un peu, enfin, vous travaillez en binôme donc, depuis quelques années. Est-ce que vous avez envisagé ou eu des demandes pour travailler, pour scénariser d'autres choses ou pour dessiner sur un scénario d'autres personnes? Ou vous travaillez séparément, pas vous deux ensemble? Comment ça se passe depuis que vous êtes un peu connu grâce à l'association?
Moi, en ce qui me concerne, je refuse tout. Je refuse de dessiner pour d'autres gens et puis de scénariser pour d'autres gens parce qu'on a déjà beaucoup de travail et... Et puis que j'ai pas le temps de faire d'autres choses. Et puis j'ai pas envie non plus de... Certainement pas de dessiner pour quelqu'un d'autre, parce que j'aime aussi... Je suis content que l'idée d'avoir notre dessin qui serve à un propos et pas 20 milliards de propos. Et puis scénariser, c'est un peu pour la même raison, je préfère scénariser pour nous. Jérôme, c'est une question pour tous les deux.
Ouais, je sais pas. De toute façon, non, j'en sais rien. Moi, l'occasion ne s'est jamais présentée. On t'a proposé des trucs, toi? Quoi?
Oui, on proposait les scénarisés dans ton dos. Non, les gens, ils ne demandent qu'à moi, ils ne demandent pas à toi.
Ouais. Bah, je sais pas, mais on verra.
Mais on a beaucoup discuté de ces trucs-là avec Dupuis et Berberian, qui sont donc un duo d'auteurs et ils travaillent. Ils travaillent un peu comme nous. Eux, ils tiennent secrète, par contre, la façon qu'ils ont de travailler ensemble, parce qu'en fait, ils veulent pas se retrouver dans une case. Et donc, eux, leur politique, c'est juste, on travaille à deux points. Donc, nous, on veut bien rentrer plus dans les détails. Mais quand on a des discussions avec eux, ils nous mettent vachement en garde sur ces questions-là, par exemple, sur le fait qu'à un moment donné dans ta vie, tu peux avoir envie de faire un livre plus personnel, plus tout seul, et qu'il faut un peu comme les couples dans l'amour, dans la bande dessinée, tu dois faire attention à ces choses-là. Tu dois faire attention à ce que l'autre étouffe pas ou ait envie de prendre du large et tout ça. Et donc on a des discussions très intéressantes à ce sujet avec eux, où leurs erreurs en fait nous sont utiles. Enfin, leurs conseils, on écoute leurs conseils quoi. Question suivante.
Est-ce que je fais les fauteuils en rouge, tu crois?
Vas-y, bien sûr.
Je peux essayer.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je suis assez intéressé à votre manière de décrire, en fait. Et je voulais savoir, quand vous décidez de créer une nouvelle histoire, en fait, est-ce que vous avez une méthode pour chercher des trouvailles différentes à chaque fois? Est-ce que vous allez les chercher à quelque part, je sais pas, dans le cinéma ou un peu partout? Est-ce que vous avez une méthode particulière pour démarrer le travail, en fait? Vous dites, voilà, avant on a fait ça, maintenant on essaie de faire quelque chose de complètement différent. En fait, est-ce que vous appliquez une méthodologie pour ça ou ça vient tout seul en discutant entre vous? Je sais pas. En fait, vous me faites un peu penser à Alain René dans le cinéma, ce qu'il faisait à l'époque. À chaque film, essayer d'appliquer une méthode complètement différente, une structure complètement différente. Voilà, je retrouve un peu ça dans votre travail. Je voulais savoir si, comment vous structurez votre travail. Voilà.
Eh ben, effectivement, on pense que le fait qu'on travaille à deux implique des façons de s'organiser, qu'on a de se partager le travail. Et effectivement, à chaque nouveau livre, on se dit que ça serait bien de trouver notre façon de travailler. Mais aussi parce que c'est aussi dans l'évolution naturelle des choses de l'envie de... de ne pas s'ennuyer, si vous voulez. Si on travaillait toujours de la même façon à chaque livre, je pense qu'on s'ennuierait un peu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la bande dessinée est un travail dans lequel on peut s'ennuyer. À des moments de redessiner toujours la même chose, il y a des moments où il y a un travail un peu pénible. Enfin, comme dans, je pense, beaucoup de travail. Et on veut effectivement... par exemple, là, on a fait Panier de singes, et le Panier de singes 2, il est déjà écrit. Parce que c'est des histoires courtes, donc en fait c'est juste on a une idée, on en discute, on écrit les dialogues, et puis on fait des petites cases pour un peu savoir comment on va s'y prendre. Enfin, je dis ça, mais c'est pas du tout, on fait pas du tout comme ça à chaque fois. Mais si vous voulez, il est déjà écrit. Mais nous, on se dit que avant de faire Panier de singes 2, qui va avoir la même âme un peu, on voudrait faire un peu d'autres choses pour voir d'autres livres, pour travailler différemment, si vous voulez, un peu à chaque fois. Donc effectivement, on se dit qu'à chaque livre, il y a une autre façon de travailler qui va faire, par la façon qu'on a travaillé, qui va faire que le livre va être différent. Parce que la façon qu'on a travaillé a une grande influence sur les livres. Alors après, comment on commence une histoire? Et là, en fait, il n'y a pas de recette. Enfin, la première partie de ma réponse est oui, il y a une recette. La deuxième partie, c'est que non, il n'y a pas de recette. Parce que... à chaque livre qu'on a fait, on s'y est pris complètement différent pour commencer l'histoire. Le Safari Monseigneur, qui est notre premier livre, donc là, c'est des dessins humoristiques. Donc nous, on a fabriqué une quantité de dessins humoristiques qu'on a mis sur le mur, qui était donc notre chemin de fer du livre. Donc on a mis nos dessins un peu partout en laissant plein de trous, et on a complété tous ces trous avec d'autres dessins en mettant des liens entre les choses pour que le tout soit une histoire. Quand on a fait donc Panier de singes, c'est une série d'histoires courtes, et Le Tricheur s'est fait d'une manière complètement différente. Le Tricheur, on est parti sur une idée où on voulait faire un livre que en sourd muet. Après, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que qu'il y avait une autre idée qu'on voulait utiliser dans cette histoire, mais qui n'allait pas du tout avec. C'était l'idée d'utiliser un tableau et le sens que fait un tableau comme narration, en se disant effectivement dans beaucoup de tableaux, il y a tout pour comprendre un tableau, il y a une sorte de texte qui va à côté, Et ce texte, donc le sens en fait de l'image, ça on peut le penser comme une bande dessinée. Donc on a utilisé cette idée-là pour dans le livre, donc en ayant une sorte de deux engrenages, le muet avec les bandits et l'engrenage avec les tableaux, en se disant on va au bout d'un moment réussir à faire que ça s'emboîte. Et donc toute l'écriture de l'histoire a été le fait d'emboîter ces deux choses-là. Donc en fait pour l'emboîter, on a mis deux détectives au milieu pour faire le lien. Et puis donc toute l'écriture s'est fabriquée comme ça. Là, notre Sol Carlus qui va sortir en novembre a été fait aussi complètement différemment, où on a fait des histoires courtes de deux pages, des doubles pages. On a fait des scènes avec un univers, avec des monstres, avec des personnages. On a pris 12 personnages et 12 monstres et 4 villageois. Et puis donc on a fait des scènes avec ces gens-là. Et puis au bout d'un moment, quand on avait un peu nos scènes, là seulement quand on a eu, je ne sais pas, quand on a fait peut-être un peu moins de la moitié du livre, là on a mis des scènes entre ces scènes-là pour, dans le but de fabriquer une histoire. Et même dans ces scènes-là, on a tout repris, tous les dialogues, qu'on a recommencé 20 fois, pour donc là, écrire une histoire avec ces scènes-là. Donc, enfin, je veux dire, pour répondre à votre question, et donc là, le livre de Cat Size qu'on est en train de faire, on est encore en train de s'y prendre autrement. Là, on voudrait qu'on ait toute notre trame d'histoire, qu'on n'a jamais eue en fait, dans tous les livres qu'on a fait avant, pour avant de commencer à dessiner. C'est une chose qu'on n'a encore pas fait. Et puis, on se dit que c'est... Enfin, en fait, c'est comme ça que tout le monde fait normalement, mais... Enfin, on pense que ça peut être intéressant aussi de travailler comme ça. Donc, voilà. Il y avait une autre question là-bas, je crois. Mais j'ai répondu à la question, ouais. Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Par rapport aux extensions de bande dessinée que vous faites sur votre site internet, vous intervenez beaucoup en animation et vous avez l'air d'en faire beaucoup à côté, surtout sur internet. Je voulais savoir si vous envisagiez de vous exporter dans ce médium à un moment.
On a des projets, effectivement, de dessins animés. On a une armoire avec nos scénarios et dans ces scénarios, il y a un jeu vidéo. Que moi j'aimerais bien qu'on fasse un jour, mais qui représente une quantité de travail énorme, et puis surtout de rencontrer des gens, et puis c'est dur de faire un jeu vidéo, parce que si tu fais un bon jeu vidéo, un grand jeu vidéo, il faut une équipe, et c'est un peu compliqué. Donc on se dit, on ne le fait pas tout de suite, on le fera plus tard. Et on a aussi d'autres, on a des dessins animés qu'on se dit, pareil, on les fera plus tard. En fait, on se dit souvent qu'un jour, on sera vieux, et comme beaucoup d'auteurs un peu plus vieux qui ont beaucoup de problèmes d'inspiration et qui leur la qualité du travail va vraiment en déclinant, nous, on se dit que c'est bien de mettre des idées de côté pour quand on sera plus vieux, quoi.
Ça, c'est vraiment une de tes obsessions, parce que c'est une question que tu as même posée à Taniguchi à Angoulême l'année dernière. Mais juste pour l'anecdote, sache que c'est pas forcément une bonne idée. Par exemple, toutes les histoires d'Alix qui sortent en ce moment ont été écrites par Jacques Martin il y a 30 ans, donc voilà, c'est pas forcément bien de faire ça.
Non, mais donc on se garde aussi du travail pour plus tard, quoi, disons. Mais question suivante.
Bonsoir. Tout à l'heure, tu as commencé une phrase où tu parlais des livres que tu aimais moins que d'autres. Et tu n'as pas dit ce que tu aimais moins.
Donc c'est la mère de Jean Mulot qui vient de parler. Eh bien, donc les deux livres. Donc le premier, c'est La patte de mouche, qui s'appelle La poubelle de la place Vendôme. Donc ça... Donc c'est trop tard. Enfin, donc on a fait le livre, on était dans l'enthousiasme, on pensait que le livre était parfait, etc. Et en fait, après coup, avec le temps, donc là, je m'aperçois que, en fait, la fin de cette patte de mouche, elle est pas bien. Elle est tout le livre est bien, je suis d'accord avec tout, je referai la même chose aujourd'hui. Mais je pense que la fin, en fait, c'est une fin qui ferme un petit peu l'histoire. Alors que dans Une patte de mouche, je pense qu'on a, on a la bonne densité, parce que La patte de mouche, c'est ce format-là. Donc en fait, c'est dur de faire. C'est un format qui est dur, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait, que ça soit dense, que ça soit intéressant à lire. Et en même temps, il ne faut pas trop s'entasser, forcément. Enfin, donc il y a la question de la densité. Et je pense que ce qu'on n'a pas fait avec ce livre, c'est faire une fin qui ouvre complètement l'interprétation de ce qu'on a à l'intérieur. Et nous, c'est une fin qui casse, et ça m'embête. C'est parce que on... enfin, voilà. Donc, je pense que la fin de ce bouquin est ratée. Parce que je pense que dans un petit format comme ça, en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir une... Je pense qu'il faut qu'on ait quelque chose qui ouvre la réflexion, enfin, qui ouvre les questions qu'il pose à l'intérieur. Et qu'on puisse revenir dans le livre en se disant « j'ai toujours pas compris ». Enfin, il faut qu'il y ait un truc comme ça qui se passe dans un format aussi court que ça, quoi. Et donc le bouquin que je pense qu'on a, qui a un problème aussi, c'est Gogo Club, parce que donc Gogo Club, c'est un livre qu'on n'a pas fait lire après qu'on l'ait fini, alors que tous nos livres, on le fait passer par une série de lecteurs tests qui le lisent et qui nous donnent leur retour. On le fait lire à plusieurs personnes. Parce qu'une bon, personne aurait un point de vue trop subjectif, mais le fait d'en avoir plusieurs permet d'avoir une sorte de mise à distance par rapport au livre, et puis de comprendre un peu comme ce qu'on a fait, en fait. Parce que nous, l'ayant fini, on a complètement le nez dedans, et on n'arrive jamais à se relire. C'est, en fait, t'es trop près de se dire ce trait-là, est-ce qu'il va, est-ce que cette phrase-là, l'alcool, en fait, c'est difficile de s'éloigner de son livre. Et donc Sol Carlus, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait parce qu'on était très enthousiaste sur le format, parce que donc on avait fait cette collection là pour ce format là qui est une collection un petit peu expérimentale de l'association où les gens font des essais, donc c'est génial, c'est le format qu'il nous faut. Donc c'est un format qui a un nombre de pages qui est réduit, qui est à peu près une trentaine de pages, et donc nous on avait fait ces trentaines de pages et on s'est dit parfait, ça colle parfaitement. Et puis on était vachement enthousiaste par l'aspect esthétique, la narration, on était en train de découvrir un truc, l'idée était superbe, etc. Donc ce qu'on aurait dû faire, c'est donc effectivement le faire lire, et là en fait je crois qu'on se serait rendu compte de l'erreur qui était que l'idée principale, qui est qu'un personnage qu'on lit en bande dessinée peut être un acteur. Et donc, est-ce qu'un acteur de bande dessinée peut jouer mal ? Et est-ce qu'on peut se dire, comme quand on regarde un film, tiens, cet acteur-là, ça, il sonne un peu faux. En fait, je vois le mec avec la caméra, le mec, le réalisateur et l'acteur. J'arrive à me représenter la scène. En fait, là, je suis en train de voir le gens en train de filmer dans ma tête. J'en ai conscience. Alors qu'un film, quand on est vraiment dans le film, en fait, on n'a pas conscience qu'il y a toute la machinerie autour. Donc, nous, on s'est dit, pour la bande dessinée, est-ce qu'on peut faire ça ? On a essayé de faire ça. En montrant le casting avec des situations, avec des vrais humains, avec des vrais dialogues, des vrais bouts d'humains, quoi, et une histoire avec des enjeux de fiction, mais avec des gens avec des masques. Et dans le livre, par exemple, les personnages perdent leur masque. Et donc on se dit, ah oui, effectivement, c'est des humains derrière. Et donc on s'est dit, ça va suffire, une réflexion sur l'acteur, etc. Et en fait, nous, on s'aperçoit que jamais un acteur en bande dessinée est un acteur. En fait, quand on regarde un dessin, on se dit jamais qu'un acteur pourrait mal jouer. En fait, on lit toujours un dessin, mais on n'a pas de recul sur le dessin. C'est-à-dire que quand on lit une bande dessinée, si on dessine un personnage déguisé en ours, avec un truc d'ours et un costume d'ours, en fait, quand on lit la BD, c'est un ours. On se dit jamais, tiens, il y a un mec dans l'ours, ça se trouve. Eh bien, ça a été donc notre grosse erreur, parce qu'en fin de compte, à cause de cette idée-là, en fait, on passe un peu à côté de... En fait, je pense que personne se dit, ah ouais, en fait, c'est un acteur. Et nous, qui sommes auteurs de bande dessinée et qui le faisons, on arrive, si tu veux, à ce niveau-là de lecture, parce qu'on est en train de le dessiner. On voit bien que c'est que quand on dessine un radiateur, c'est pas un vrai radiateur, si tu veux. Donc... si on a vu nos lecteurs qui nous auraient dit bah non, je vois pas ce que vous voulez dire par là, en fait on aurait mis beaucoup plus de consistance à la deuxième partie et on aurait rajouté des pages et on aurait fait que la deuxième partie soit quelque chose de plus consistant et on aurait mieux compris qu'elle récupère tous les enjeux humains de la première partie. Et en fait, ça n'y paraît pas, quoi. Donc, je pense qu'on s'est trompé en ça sur ce livre. Voilà. Question suivante.
C'est pas une question, c'est plus une remarque sur justement le fait qu'on ne voit pas l'acteur dans la bande dessinée. Moi, ce qui me gêne dans la bande dessinée parfois, c'est quand le dessin est trop réaliste et on voit le dessinateur en train de se dire est-ce que justement le réalisateur, est-ce qu'il y a des bons boutons au bon endroit ? Et quand le dessin est trop réaliste, je sens que c'est un mec qui a passé tellement de temps à faire un détail qui fait inutile l'histoire parfois. Et c'est là que, au cinéma, on voit un comédien jouer bien ou mal. Et des fois, moi, je vois le dessinateur qui passe trop de temps, j'ai l'impression, sur un détail qui ne sert à rien pour l'histoire. Et finalement, c'est peut-être que, comme il n'y a pas de comédien, mais seulement un dessinateur, c'est son travail à lui qui va transparaître mal ou bien selon le lecteur.
Nous aussi, ça c'est tout à fait juste. Hein. Quand nous, on discute avec nos amis, avec des amis à nous, qui sont auteurs de bande dessinée, notamment Benjamin Chomaz, par exemple. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un très jeune auteur qui est en train de faire des trucs à l'association. Donc lui, il est complètement obsédé par ses dessins et il n'a pas du tout le bon point de vue dessus. Il est complètement malade et il est perfectionniste à un point que c'en est incroyable. Et nous, quand j'observe Benjamin Chomaz parler de son boulot ou qui se dit oh, là, je vais refaire complètement ce dessin-là parce que ça va pas. On a vraiment l'impression que le personnage il sort de la case et tout ça, alors que quand on regarde le personnage, il est dans la case. Et ben, je m'aperçois quand j'observe Benjamin Chomaz que nous, on a aussi on se dit mais attends, c'est pas possible que si on dessine la voiture. De cet angle-là, on a l'impression que les roues, elles décollent du sol. Et puis, je m'aperçois qu'on a plein d'espèces de pensées qui ne sont pas du tout justes. Mais ça tient au fait que quand on dessine, si vous voulez, on a un peu le sentiment, par exemple, quand on dessine un meuble, on a presque le sentiment d'être menuisier. Tu vois, on dessine les courbures du truc. Il y a un sentiment où on se rapproche un peu du métier, où quand on fait une plainte, où on a l'impression d'être ce métier-là, de l'ouvrier qui met la plainte et tout ça. Et quand on... je trouve qu'il y a un peu... à mon avis, il y a des idées qu'on a quand on dessine qui amènent vers ce genre d'obsession un peu erronée, en fait, de l'importance que ça a. Quoi. Quelque chose que, à mon avis, beaucoup d'auteurs de bande dessinée partagent. Quoi. Question suivante. Enfin, si j'ai répondu à la question.
Peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Bonsoir. Avant de venir, je pensais que vous battiez souvent, vous tapotiez vos sexes sur la veste de vos professeurs. Vous avez l'air... très correct. Aussi, je voulais savoir si vous... quelle situation vous aviez connue de celle que vous mettiez en scène ?
De quoi ?
Je voulais savoir, qu'avez-vous connu des situations que vous mettez, que vous nous donnez à lire ?
Ah, d'accord. Non, aucune. Hein. Non, au contraire, c'est justement parce qu'il ne se passe rien dans la vie. Je pense que ça tient à cette idée que... Je pense que quand on est adolescent et quand on va au cinéma, quand on est plus jeune, on pense... Enfin, en tout cas, personnellement, ça m'est arrivé... de se dire, ah ouais, la vie, on peut ressentir ce même genre de sentiment. Quand on voit une histoire d'amour au cinéma, et qu'en fait on est vraiment pris par ce que ressentent les personnages, on se dit, ah la vie, en fait quand je serai plus grand, ça va être comme ça. Je vais ressentir ces trucs-là, ou de peur, ou la vie, il va y avoir ce quota-là d'aventure. Et donc, c'est pas du tout vrai. Et je pense qu'en fait, la raison de, pour nous, enfin en tout cas pour moi, de faire de la bande dessinée est liée à ce fait que dans la vie, il se passe peu de choses, quoi. Et donc, quand on fait la bande dessinée, on calque des personnalités sur des gens, on peut contrôler, on peut faire que ces gens-là, ils font tout ce qu'on ne peut pas faire dans la vie, évidemment. Ouais. Une question derrière.
C'est pas vraiment une question, c'est une petite remarque. En fait, votre travail, c'est un peu bon, un jeu de l'ego, quoi. Vous avez une approche extérieure par rapport aux situations, vous les construisez comme un mécano. Enfin, c'est ce qui se fait beaucoup, un peu partout dans la bande dessinée, qui se veut expérimentale ou un peu ambitieuse, quoi. Ça fait penser un peu à, je sais pas, Glenn Baxter, je crois que c'est ça, il y a un dessinateur humoristique.
Ben Catchaw.
Comment ?
Qui ça ?
C'est un dessinateur anglais qui crée toujours des hiatus entre l'image, une image comme qui a été empruntée sur une étiquette de boîte de conserve, un peu en style pop art.
Mais c'est qui le nom ?
Glenn Baxter.
Il me semble.
Glenn Baxter, pardon, d'accord.
Ou Pierre Lapolice, vous voyez, Pierre Lapolice. Mm-hmm. Bon, c'est assez proche. Enfin, il y a quand même autre chose qui me semble intéressant. Je ne connais pas du tout vos albums, mais. Bon, il y a une tendance générale dans la bande dessinée adulte, entre guillemets, ou, bon, enfin, c'est la mode rétro, quoi. C'est-à-dire, les graphismes se rappellent toujours un graphisme d'une époque bien déterminée. On est passé des années 50 aux années 60, aux années 70, enfin, bon, c'est espèce d'obligation générale de suivre une mode graphique vintage, comme on dit maintenant. Donc c'est un peu une espèce de tyrannie presque dans l'anticonformisme actuellement, il me semble, bien que ce soit bon, assez jouissif aussi, il faut le dire, mais enfin, ça peut, au bout d'un moment ça patine, quoi. Donc et alors vous, apparemment, je ne connais pas vos albums, mais vu le graphisme, je ne je vois pas de référence, c'est ça qui est intéressant, justement, c'est assez ouvert. Vous n'essayez pas de vous raccrocher à justement des styles tout fabriqués, et malgré tout, ça a l'air de fonctionner quand même. C'est pas ça part pas dans, vous voyez ce que je veux dire, ça part pas dans tous les sens, quoi. C'est quand même solide, hein, l'idée de justement la distanciation par rapport au personnage avec le petit sigle minimal là, c'est très intéressant, ça solidifie bien le graphisme. Enfin, je n'exprime pas ça très bien, mais bon, donc apparemment vous n'avez pas une arrière-pensée de suivre une espèce de
non, au contraire, quand on a commencé de dessiner, on avait des influences, comme tout jeune auteur, je pense. Et on s'est rendu compte que... Bon, en fait, on s'en est rendu compte. On s'est dit, ah tiens, il y a un tel dans ce dessin-là, on trouve que ça fait un peu comme machin. Et là, on a donc décidé de se débarrasser complètement de toutes les influences qu'on avait. Parce qu'on s'est dit... Et ça, je le pense encore aujourd'hui, et je pense que c'est ce qu'il devrait dire dans les écoles. Je pense que quand tu te reposes sur le style de quelqu'un, par exemple, quand tu vas dessiner une bouteille en plastique, et que tu te dis, ah ouais, mais je sais exactement comment, par exemple, Lewis Rodheim, il l'aurait fait, j'arrive à le voir, et donc hop, tu le fais, et ben, je pense que ça t'empêche de toi, savoir à quoi elle ressemble ta propre bouteille en plastique intérieur, quoi. Je pense que le fait de se dire c'est interdit de dessiner comme un tel et de laisser ses influences t'approcher, ça laisse une place au dessin qu'il n'avait pas avant que tu fasses cette gymnastique-là, avant que tu te forces à le faire, si tu veux. Et nous, étant deux, c'est beaucoup plus facile parce que déjà tu peux montrer du doigt à l'autre, et puis le fait que quand... En fait, on comprend mieux son dessin quand on dessine à deux comme nous on le fait. Je pense que, enfin ça, je m'en aperçois quand je parle avec d'autres auteurs, par exemple comme Aude Picot, qui me disait qu'elle s'était fait copier par un autre auteur, peu importe, et elle me dit, tiens, c'est marrant parce que machin, il m'a copié et il le fait mieux que moi, et je m'en aperçois parce qu'en fait, je vois exactement ce qu'il a pris et ce qu'il a pas pris, parce qu'en fait, tu l'as sous les yeux, et le fait de voir la différence entre lui, ce qu'il a pris, ce qu'il n'a pas pris, en fait, lui, il a pris ce qui marchait. En fait, elle voit ce qui marche. et elle voit en fait ce qui est bien chez elle dans son propre dessin. Alors que si il y avait personne qui avait fait cette petite gymnastique, elle, en fait, elle serait avec son dessin en se disant ah ouais, effectivement, j'ai un truc, mais je sais pas trop c'est quoi. Et c'est très difficile de voir à l'intérieur de son dessin personnel. Alors qu'avec Jérôme, vu que dès qu'on a une trouvaille graphique, eh ben, on la donne à l'autre et l'autre la reprend et la fait évoluer. Et ben là, en fait, on directement, ah ouais, je vois, j'ai eu donc cette trouvaille graphique. Donc lui, il l'a repris. Ah oui, yeah, j'arrive à voir. Et le fait que lui la reprenne et la recopie et mette de lui-même à l'intérieur, ça fait encore. Enfin, lui, il a remis encore d'autres trucs dedans. Parce que c'est une sorte de droit qu'on s'est donné dès le départ. Et donc, ça permet de voir ce qu'on fait. Et puis, ça permet de réaliser qu'on a mis le doigt sur des découvertes graphiques. Et ces découvertes graphiques donc, ont de l'importance et donc donnent la confiance pour se dire « Ah oui, effectivement, on peut complètement construire un style personnel et unique. Et on peut complètement se débarrasser de toutes les autres influences. » Bon, après, je ne dis pas... Enfin, c'est personnel que je dis. C'est dur de parler de dessin. Là, je m'en rends compte maintenant. Parce que là, je vais vous dire que mon dessin, il est unique et il est génial. Parce que c'est ce que je pense. Et en fait, c'est difficile de parler de dessin et de mettre toutes ces espèces de modestie à l'intérieur de toutes mes phrases, alors que je sais qu'à l'intérieur de moi, c'est pas du tout modeste. Donc, c'est dur de parler de dessin sans être prétentieux, je pense.
Ce sera le mot de la fin. Merci.
Comment ?
Ce sera le mot de la fin, je pense.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Quelle heure il est ?
Il est 9h moins 25.
Et on a jusqu'à moins le quart, c'est ça ?
Si tu veux, vas-y, oui.
Ah bah, il y a une question d'abord. Non mais c'était sérieusement, c'est jusqu'à moins le quart, c'est prévu comme ça ou pas ?
Ça va, ne t'inquiète pas.
Ah bon.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, moi, c'est juste pour revenir aussi au V, en fait, plus en tant que lecteur, peut-être. Parce que c'est vrai que, donc, moi, je trouve très intéressant, en fait, ce que vous avez raconté par rapport aux arcades sourcilières, le nez. Et en fait, moi, en tant que lecteur, chaque fois, je l'ai vu soit comme des yeux, soit comme un nez. Et en fait, je trouvais intéressant cette gymnastique plutôt de soit de vouloir montrer, alors que les sourcils, par exemple, qui pour moi en fait fonctionnait à ce moment-là comme l'expression, ou alors le nez est justement à ce moment-là.
Mais un nez comme ça, quoi.
Ouais, un nez épaté ou je ne sais pas. Donc, enfin, ça avait quelque chose de mystérieux qui moi en fait que je trouvais assez fascinant et je ne sais pas si on retrouvait. En fait, ça m'a refait penser à quand Scott McCloud dans sa BD il explique aussi la projection qu'on fait. Donc, plus le dessin est simple, plus nous on se projette dedans. Donc, par exemple, si on voit juste deux points entre eux, on va se dire « Ah, mais évidemment, c'est un homme, c'est moi, etc. » Et je m'étais demandé si il y avait aussi toute cette réflexion là derrière, en fait, par rapport à ces traits. Est-ce que parfois, c'est vraiment tout le temps le schéma de base ou vraiment, tout d'un coup, vous vous dites « Ah, allez, là, on dirait plus des sourcils » ou « Là, il mérite d'être plus fâché » dans ce sens-là.
Tu veux répondre, Jérôme ? Parce que, en fait, je connais ta réponse, c'est pour ça. Alors, ce qu'elle a dit, Jérôme, c'est que non, c'est toujours et uniquement un visage qui représente, qui est une traduction du visage. Enfin, moi, je pense la même chose, et en fait, on en discute beaucoup. C'est rien d'autre que ça. Là, ce que tu décris, j'arrive même pas vraiment à le voir. Enfin, là, j'y arrive parce que en fait, je me l'écoute. Enfin, je t'écoute, donc je me demande comment tu fais. Mais effectivement, nous, on en a dessiné vraiment énormément. Et on a, enfin,
il y a juste le nez qui sort de la cagoule, et donc du coup, ça tend la cagoule.
Il y avait une deuxième partie dans la question ?
Non, c'était...
Si, t'avais dit un autre truc.
Par rapport à Scott McCloud et à l'identification, voilà. Plus le dessin est simple, plus on s'identifie.
Bah oui, c'est ça, en fait.
Oui, bien sûr. Nous, quand on l'a pas prévu comme ça, mais effectivement, je pense que c'est un résultat dont on a conscience. C'est-à-dire qu'on se dit, sur cette neutralité-là, avec les textes. Et en fin de compte, ce qu'on propose, c'est juste une sorte de posture avec un texte qui va avec, donc une alliance de deux choses et puis un visage neutre. Et on sait que c'est le visage qu'on lit. Grosso modo, c'est là où tu regardes. Même si tu vois autour, c'est là, à cet endroit-là, que se fixe le regard et se fixe l'attention. Et donc, je pense qu'on lit le texte un petit peu comme on l'entend soi-même. Quand moi, je vais lire une phrase, le son et l'intonation ne vont pas forcément être identiques à quelqu'un d'autre, même si je pense qu'on est un peu dictateur dans notre façon d'écrire et qu'il y a des façons d'écrire beaucoup plus neutres et qui sont beaucoup plus ouvertes. Enfin, je pense quand même qu'on a quand même chacun notre accent, par exemple, un truc un peu comme ça. Et je pense qu'on va chacun y mettre un peu sur cet espace blanc, la page blanche du visage, chacun va y mettre un peu de soi-même. Je pense que c'est ça effectivement qui se passe avec le V, quoi. Et donc le V, donc au début c'était pas un V, c'était une sorte d'Y que tu avais fait, je crois, qui était comme ça, quoi. Donc ça a été comme ça. Donc après, moi je l'ai fait en V comme ça, genre. Et après le V, il est devenu un peu plus majeur. Et après, il s'est un peu rétréci. Je crois que c'est la révolution.
Mais fais le menton pour qu'on pige.
Grosso modo. Donc, pour vous dire, je vous montre le truc pour vous dire que on s'est pas dit le V, c'est l'espace blanc sur lequel on va tout mettre les émotions. C'est quelque chose qui s'est fait, qui est venu comme ça, quoi.
Oui, mais ce qui est intéressant, ça rejoint la question du monsieur de tout à l'heure sur les références à d'autres styles. C'est que le code en bande dessinée, c'est les yeux, c'est deux points, le nez, c'est un arc de cercle. Enfin, si on va de manière très résumée. Donc vous avez cherché à travers votre collaboration à deux, pour créer un style finalement que vous pouviez utiliser tous les deux, vous avez créé vos propres codes graphiques. Ça rejoint aussi ce que tu disais sur l'observation et l'interprétation, mais ça a l'air d'un détail, mais ça n'en est pas un du tout, cette question de la représentation du visage.
Il y a aussi une raison très simple, c'est qu'on a toujours voulu que le corps soit dans des proportions réalistes. Souvent, en bande dessinée, il y a un corps constitué à peu près normalement, et puis une grosse tête, parce qu'il faut que dans la tête, on puisse dessiner les yeux, la bouche, les expressions, souvent les personnages ont de profil. Et là, comme on voulait vraiment un plein pied avec une anatomie normale, bah, ça devenait impossible quasiment de rentrer dans les détails, ou alors il fallait vraiment un peu comme dans les trucs genre Largo Winch et compagnie, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver une solution pour que... Alors les mentons sont pareils, les yeux sont pareils. Donc là, c'était plus simple de tout enlever et puis de se concentrer sur le corps, sur les épaules, sur les bassins, les trucs comme ça.
Le fait de travailler à deux, est-ce que ça vous permet aussi de vous dessiner l'un l'autre? C'est-à-dire, est-ce que vous posez l'un pour l'autre? Il y a un côté, tu parlais de l'anatomie, assez impeccable dans vos anatomies. Donc ça vient de l'observation du corps et du dessin d'après nature ou pas du tout? Une vraie connaissance de l'anatomie du coup?
Une vraie connaissance anatomique, du coup.
Extraordinaire.
Mais effectivement, le fait d'être à deux aussi permet de demander à l'autre de poser, de faire des expressions, etc. Oui.
C'est dans la bande dessinée classique, l'épisode de Tintin où ça se voit le plus, car j'ai travaillé avec Jacob, c'est les 7 boules cristal tombent du soleil, où justement il dessine. Ils se dessinent l'un l'autre en fait pendant tout l'épisode. Et parfois ça donne cette impression, mais qui est fausse apparemment. En vous lisant, on se dit effectivement, tiens, là c'est peut-être Florent, là c'est peut-être Jérôme. Mais non. Illusion, d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question? Enfin, à moins qu'il y ait encore d'autres questions, mais ça. Oui.
J'en profite, comme je suis à côté. Pourquoi, c'est par rapport à votre actualité, pourquoi vous avez choisi de reprendre Cat's Eyes? Pourquoi pas Sailor Moon ou...
Ah oui, il y a une raison très simple, c'est qu'on a fait une histoire courte pour le magazine Strapazine, je crois. Et à un moment donné, il y a un personnage de dos. Et je me suis dit, ah tiens, c'est drôle, on dirait personnage de quel size dedans. Et non, c'est pas ça l'histoire. Et puis, du coup, on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire. Il y a cette raison-là, et puis il y a la raison qu'on n'a jamais tellement fait parler des filles encore dans notre boulot, enfin un petit peu, mais de manière très ponctuelle. Et on voudrait essayer de voir comment notre façon d'écrire peut être. Enfin, comment des voix. Comment on peut écrire pour des voix féminines, en fait. C'est peut-être la principale motivation. Hein.
Mais alors là.
Mais grosso modo, c'est en fait. Comme, beaucoup de points de, comme le, la plupart des points de départ de nos livres, c'est en fait des. C'est soit des idées, soit des envies. Donc là, c'est une envie. C'est en fait une envie de, aussi de dessiner des filles. De calquer les dialogues et puis après on se dit tiens l'idée est intéressante en fait et après en fait là ça se transforme en train là c'est en train de se transformer en idée puisqu'en fait on est en train de sur cette envie en fait de vraiment faire quelque chose qui est un peu une idée quoi qui est, et puis, surtout, on se dirait qu'en fait c'est plus une idée qu'autre chose.
Puis il y a aussi parce que dans le tricheur il y a beaucoup de enfin il y a une, on a beaucoup travaillé sur la narration de la représentation d'une scène d'action. Ben, je trouve encore rester un peu trop frontal et là moi j'ai surtout envie de me coltiner un peu de la représentation d'une action donc faire un truc un peu péchu ça peut être pas mal ouais. Titi là, avec une voix déprimante.
Et la notion de la parodie va se poser, j'imagine, parce que Cat's Eye, c'est une série qui existe déjà. Mais il y a des droits.
Non, on ne ferait pas une parodie. Hein.
Oui, mais alors, comment vous allez. Vous savez que les Japonais sont pas les plus tendres. Ouais.
Mais c'est plus. C'est l'idée de faire un peu comme. Nous, ça serait plus l'idée, ça serait des filles qui se diraient que peut-être elles feraient du Cat's Eye.
D'accord.
Pour l'instant, en fait, c'est deux. Pour l'instant, en fait, c'est deux. C'est deux lesbiennes qui donc, sont des voleuses professionnelles, blablabla. Elles ont sur un coup qu'elles font, il y a une autre nana qui les qui en fait qui interfère dans leur truc. Et donc à l'intérieur de ces pages, on fait aussi beaucoup d'images où les filles elles posent en cat size avec les positions comme il y a dans cat size. Et donc je pense que on va comme en tant que lecteur en fait on va être amené à penser ah tiens les deux nanas qui sont des voleuses et qui adorent cat size. Qui adorent la série et qui elles ont fait le même insigne que Cat Size et qui signent donc Cat Size et donc qui rencontrent l'autre nana qui a interféré. Donc je pense que le lecteur va se dire ah tiens à la fin elles seront toutes les trois comme Cat Size puisqu'elles sont trois, c'est trois sœurs. Et en fin de compte ça va pas se passer comme ça. En fait on joue sur cette idée qu'en fait elles veulent devenir amies et qu'en fait elles le seront jamais quoi.
Ouais, puis ça fait surtout qu'une semaine qu'on en parle hein, tout ça.
Ouais, ça vient.
Tout ça peut beaucoup évoluer.
Vous avez l'air d'accord sur presque tout, a priori, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes en désaccord ?
Tu vois ?
C'est parce que si tu avais dit oui, j'aurais dit non, on aurait été en désaccord. Mais...
Ah ouais, d'accord.
On a peu de désaccords où en fait ça marche pas. Où en fait on s'aperçoit que là, moi j'ai une ambition artistique qui va dans cette direction et Jérôme il a une ambition artistique qui va dans une autre. On se prend la tête à peu près une fois tous les 6 mois et on se prend la tête en général pas pour des questions artistiques mais plutôt pour des questions de partage du travail ou autre. Et sur les questions artistiques, on n'a pas d'accrochage parce que. En fait, on a une sorte de technique qui est jamais orale, mais en fait, on va juste tester l'importance d'une décision pour l'autre. Parce que bon, déjà, à la base, je pense qu'on marche plus par ajout et on fait suffisamment confiance à l'autre pour que si jamais, par exemple, si Jérôme il a une intuition sur quelque chose... Moi, je la prends directement en banque dans moi les choses que je suis en train de réfléchir ou mes intuitions à moi. Quoi. C'est-à-dire qu'on considère, je pense qu'on se fait complètement confiance sur les idées de l'autre et sur les envies de l'autre. Donc, on fait banque des intuitions de l'autre. Par exemple, Cat Size, c'est une envie au début de Jérôme de dessiner Cat Size. Donc moi, je la prends comme si c'était la mienne. Et je lui, parce qu'elle m'enthousiasme autant que si c'était la mienne presque. Mais parce que je sais aussi que si je remue cette intuition-là, c'est que c'est une bonne intuition. Et qu'elle est sûrement importante dans l'histoire de l'art, tu vois. Et la façon qu'on a, donc le fait de s'ajouter ces idées-là, donc si jamais il y a une décision où on n'est pas d'accord, par exemple, par exemple que on fait une composition avec des personnages et à la place d'avoir trois scènes, en fait on va faire genre une petite scène, 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 à la place d'avoir trois grosses scènes. Donc parce qu'on n'est pas d'accord. Donc en fait là, dans notre façon de communiquer sur ce truc-là, on va grosso modo uniquement tester l'importance que ça a pour l'autre. C'est-à-dire ce truc-là que moi je veux en trois bouts, je vais lui dire ça serait quand même mieux en trois bouts, hein, c'est clair. Et donc Jérôme il va me dire soit donc là je vais juste formuler l'importance que ça a pour moi. Donc lui il va me dire là non, là carrément pas du tout, non là il faut surtout pas que ce soit comme ça. Donc là, je vois qu'il va dire que son importance à lui est un peu plus haute. Et donc après, moi, donc là, ayant compris à peu près l'importance que ça a pour lui, je vais lui reformuler la mienne. Si vraiment, je pense que même si lui il formule ça, je pense que ça me tient tellement à cœur que la mienne est plus importante. Mais si jamais...
Ouais, moi, j'ai une autre technique, c'est marrant. Moi, je te fais croire que je laisse un truc comme ça. Puis après, tu viens voir, tu fais « Ah putain, j'ai une idée, machin. » Et je te laisse croire que c'est toi qui as eu l'idée pour que tu puisses... Comme ça, je te dis, ouais, puis là, je chipote un peu, ouais, t'es sûr que c'est bien ? Je te dis, si, carrément, ça, je crois.
Ah ouais ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Eh bien, merci beaucoup. Les questions étaient très intéressantes.